Alors, pour ce jour, nous continuons notre lecture du livre des Actes des Apôtres. Et nous ne pouvions évidemment pas passer sur cet épisode très important de cette rencontre entre Pierre et Corneille. Alors, cette rencontre est longue, elle fait 66 versets. Donc, je ne vais pas vous lire tout, je vais vous en lire une bonne moitié. Et puis, vous pourrez regarder chez vous plus tard, et puis au fur et à mesure de la prédication. C'est pour ça que je vous ai distribué les feuilles pour une fois. En général, on ne le fait pas. Mais exceptionnellement, je pensais que c'était important, d'autant que c'est l'ensemble du récit qui fait corps et qui donne sens. Donc, en général, les récits bibliques sont assez courts. Et bien, celui-là, il est long. Et pour une fois, on peut aussi entendre un récit un peu plus long. Donc, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, les 36 premiers versets, et puis la suite, je vous le dirai au fur et à mesure. Il y avait à Césarée un nommé Corneille, centurion de la cohorte, appelé Italique. Avec toute sa maison, il était pieux et craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'actes de compassion en faveur du peuple et priait Dieu constamment. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement en vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille ». Il le fixa et, saisi de crainte, il lui dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières, tes actes de compassion sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il loge chez un autre Simon qui est tanneur et dont la maison est au bord de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses domestiques et un soldat pieux parmi ceux qui lui étaient attachés. Après avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit, en terrasse, vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait quelque chose, il lui advint une extase. Il voit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande toile tenue par les quatre coins qui descend et s'abaisse jusqu'à la terre. Il y avait là tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, abat et mange. » Pierre répondit « En aucun cas, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Pour la deuxième fois, la voix lui parle « Ce que Dieu a purifié, toi, ne le souille pas. » Cela se produisa trois fois. Et aussitôt après, l'objet fut enlevé au ciel. Et la suite. Donc, ensuite, Pierre, je vous résume un peu. C'est les trois visiteurs envoyés par Corneille vont arriver chez Pierre, et Pierre va les accueillir, et ensuite il va aller chez Corneille, et une fois arrivé chez Corneille, il lui dira cette phrase extrêmement importante, à mon avis, et essentielle. « En vérité, dit-il, je comprends, c'est au verset 34, « En vérité, dit-il, je comprends que Dieu n'est pas partial. » Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice est agréé par lui. Et après, lorsque Corneille lui raconte à nouveau sa vision et que l'esprit descend sur tous ceux qui l'entourent, Pierre termine tout à la fin du chapitre 10, les versets 47 et 48. Peut-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous? Il ordonna qu'ils reçoivent le baptême au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de demeurer là quelques jours. Et j'ai mis aussi le chapitre 11, puisque Pierre, après être entré chez Corneille et avoir baptisé son entourage, eh bien, doit s'expliquer à Jérusalem devant les chrétiens de Jérusalem. Voilà, donc un récit assez long que vous pourrez relire tranquillement et je vais essayer d'en tirer que le son essentiel. Et donc de la rencontre entre Pierre et Corneille, récit vaste, long et récit qui est déjà préparé et certainement d'une importance capitale. Je dirais même que c'est pratiquement le sommet de ce livre des Actes des Apôtres. Alors, cette importance, je l'ai déjà noté, se trouve, entre autres, particulièrement dans la longueur de la séquence, 66 versets. Et à mon avis, j'ai lu un peu rapidement, mais on ne peut pas faire l'économie de la lecture entière de ce passage. Impossible de tout lire, mais pourtant, il faut comprendre qu'entre le moment où Corneille a cette vision, Corneille, cet homme, ce Romain, qui est craignant Dieu, nous dit-on, c'est-à-dire qu'il est prosélyte, il cherche à se convertir au judaïsme, il pratique donc vraiment bien les coutumes du judaïsme, et d'ailleurs, on le voit bien, puisqu'on nous dit qu'il prie à la neuvième heure, et que c'est que tout juif bien croyant et bien pensant, eh bien, prie à la neuvième heure. Donc, Corneille, bien que romain, et craignant Dieu, est adorateur du Dieu d'Israël. Donc, entre le début du récit, où eh bien, il y a cette vision, c'est assez rare d'ailleurs dans le Nouveau Testament, c'est plutôt par la voix que Dieu se fait entendre, cette vision de Corneille et la fin du récit, où finalement Pierre doit faire admettre à toute la communauté de Jérusalem eh bien, qu'il est important, qu'il est indispensable que désormais l'Église s'ouvre eh bien, aux non-juifs en réalité. C'est bien l'enjeu du texte. Qui peut faire partie de l'Église et par la suite du livre des Actes et dans toutes les lettres de Paul, le problème se posera de comment entrer dans cette communauté. Donc, récit très long pour nous faire comprendre cet enjeu absolument indispensable, cet enjeu essentiel. Je dis essentiel parce qu'aujourd'hui, nous sommes une église catholique, et oui, parce que catholique, ce n'est pas réservé aux catholiques romains. Catholique, ça veut dire à la fois universel, mais aussi il y a cette dimension d'intemporalité. Alors que universel, c'est juste le monde entier, eh bien l'Église est catholique parce qu'elle est dans le monde entier, pour le monde entier et pour tous les temps désormais. Et je pense que c'est l'ouverture et que c'est à partir de cet épisode qu'on peut vraiment dire que l'Église va être catholique ou universelle, même si ça vous ennuie de dire catholique. Importance aussi de ce texte par son encadrement. Juste avant, chapitre 9, chapitre 10, c'est assez facile, eh bien, il y a la conversion de Paul. Paul qui va devenir l'apôtre des nations. Paul dont même des philosophes comme Alain Badiou, marxiste s'il en est, reconnaît la force de la pensée et l'ouverture de son universalisme. Il dit même qu'avec Paul, c'est les fondements de l'universalisme qui vont être posés. Et juste après, eh bien, va apparaître un personnage, Barnabé, fidèle compagnon de Paul, qui cherche Paul, qui va le trouver. Et à partir de ce moment, petit à petit, dans le livre des Actes des Apôtres, je ne sais pas si vous avez fait attention, la figure de Pierre va s'effacer et c'est Paul qui va prendre toute la place. Et d'ailleurs, à la fin du livre des Actes, les derniers chapitres ne parlent plus de Pierre, mais uniquement de Paul. Importance aussi de la construction du récit, les répétitions de ce qu'a vécu Corneille. On nous le raconte trois fois. Une fois, on nous raconte le récit de la vision de Corneille. Une autre fois, on nous raconte, c'est les serviteurs qui vont raconter une partie du récit à Pierre. Et enfin, Corneille va de nouveau raconter, mais là, il va le raconter à Pierre. Alors, on peut se demander si Luc est un peu lourd quand même avec ses répétitions. Mais non, à mon avis, ces répétitions sont là pour nous montrer quelque chose d'essentiel, à la fois dans les Écritures, mais dans nos vies. L'essentiel, c'est la divergence des points de vue. C'est-à-dire que la même scène, on le sait bien, eh bien, n'est pas racontée par tout le monde de la même manière. Et puis, lorsque nous racontons quelque chose, nous cherchons à faire passer un message souvent. Et Luc, en effet, cherche à faire passer un message. Trois fois, il répète, d'ailleurs je vais revenir sur ce chiffre 3 qui est essentiel aussi dans notre récit. Trois fois, il raconte, eh bien, parce qu'à trois fois, cela s'adresse à des personnes différentes. Et cela est même raconté par les autres, c'est-à-dire qu'on voit le passage de témoin d'un récit vécu à un récit raconté et un récit de nouveau témoigné par les autres. C'est le message même de l'Évangile qui s'est propagé par des témoins. Et en effet, le récit est aussi là pour nous amener à croire. C'est l'importance de tous ces récits, y compris celui-là. Ainsi, l'importance de cette acceptation de la différence des points de vue. C'est aussi cela l'Église, nous n'avons pas tous le même point de vue sur notre monde. Eh bien, il faut mettre ensemble et essayer de faire coexister la différence de ces points de vue. Non pas pour se heurter, mais pour essayer d'en trouver une certaine richesse. Oh, tous, nous ne sommes pas appelés à nous mettre sur la même ligne, à raconter les choses de la même manière, mais c'est la complémentarité de tous ces points de vue qui est importante. Et puis, importance de la dimension profondément symbolique. Trois fois, Dieu va intervenir. Vous l'avez entendu déjà, trois récits de ce qui s'est passé avec Corneille. Trois fois, Dieu va intervenir parce que Pierre résiste. Oh, vous savez, Pierre, vous le connaissez, c'est un des plus connus des apôtres, et puis un des plus importants aussi. Il a renié Dieu, il a renié Jésus trois fois déjà. Et trois fois, Jésus, dans l'évangile de Jean, lui a fait dire qu'il l'aimait pour le rattraper en quelque sorte. Et bien voilà qu'il résiste encore au moment de cette vision, lorsqu'il voit apparaître ce drap avec tous ces animaux et qu'on lui demande de manger trois fois. Enfin, il faut que Dieu s'y reprenne par trois fois pour qu'enfin il accepte, qu'enfin il entende. Et puis, trois hommes. Corneille envoie trois hommes, deux serviteurs et un soldat. Trois hommes. Cela nous renvoie à un autre récit où trois hommes apparaissent. Mais c'était il y a bien longtemps. C'est les trois hommes qui apparaissent dans le récit d'Abraham. Abraham qui est sous son arbre à Mamré et qui voit apparaître trois hommes qui vont lui annoncer une naissance. Eh bien, peut-être que ces trois hommes sont là pour nous rappeler ce récit où la naissance est annoncée. Et Pierre, peut-être, est là comme Abraham et une naissance est en train de se passer. La naissance d'une autre Église, d'une Église ouverte au monde, d'une Église universelle. On dit souvent que c'est la Pentecôte, la naissance de l'Église. Mais en réalité, on le voit bien dans ce récit, particulièrement et dans les Actes des Apôtres, si vous lisez un peu ce qui se passe avant, eh bien, les commencements, il y en a plusieurs en réalité. La semaine dernière, c'était Ananias et Saphira, à mon avis, c'est aussi un acte eh bien, de commencement, voire de création. Il y a là, vraiment, avec ces trois hommes, quelque chose qui nous renvoie à la naissance, eh bien là, non pas d'un fils, mais d'une fille de l'Église, qui est fille de Dieu, et qui est aussi ainsi la naissance de l'Église, à travers la figure de Pierre qui peut être rapprochée d'Abraham. Et puis il y a trois villes, d'abord Césarée, ville romaine, qui nous montre cette dimension aussi eh bien, d'une certaine universalité. Et Césarée, ville romaine, nous ramène à une autre dimension. L'Empire romain s'étend aux confins du monde à cette époque-là. Donc cette ville nous renvoie à cette dimension universelle. Ensuite, il y a Joppé, une ville où Pierre séjourne. Évidemment, il a eu quelques soucis à Jérusalem, donc il est à Joppé. Et donc Pierre séjourne à Joppé, et pas Joppé est au bord de la mer. Vous savez, la mer c'est quelque chose, et c'est dit dans le texte. Joppé est au bord de la mer c'est quelque chose d'un peu terrifiant pour tous les Juifs. Ils ont peur, ce n'est pas du tout un peuple marin, c'est un peuple terrien, un peuple paysan. Et la mer représente toujours une menace. C'est le lieu d'où pourrait surgir un monstre tel que le Léviathan. Et puis la mer est à l'ouest, c'est le lieu où se couche le soleil. Donc c'est un lieu qui symbolise plutôt la mort que la vie. Joppé, cette ville chez qui il est, en plus pour en rajouter une couche, il est chez un tanneur. Eh bien le tanneur, c'est vraiment un métier qui est un des métiers impurs par excellence pour les Juifs. Donc il est dans une ville un peu menaçante et chez un tanneur, dans un lieu donc impur. Et enfin à la fin, Jérusalem. Jérusalem où Pierre va aller rendre des comptes à l'église, mais Jérusalem qui fait le lien certainement avec Césarée entre le monde juif et cette église qui est en train de se construire dans une dimension tout à fait autre. En fait, il y a trois villes qui sont là aussi pour nous montrer que les frontières, eh bien, peu à peu, vont non pas s'effacer, mais changer. Et puis, ces trois villes, eh bien, sont toutes en lien direct avec une verticalité. Là, je parlais d'horizontalité, mais il y a une vraie verticalité de l'ange qui descend, de l'esprit qui descend, à la fois eh bien, à Césarée, à Joppé et à Jérusalem, où l'esprit était déjà descendu sur les apôtres au moment de la Pentecôte. Donc, il y a ce lien entre la dimension universelle, entre les hommes, entre la fraternité qui est en train de se construire et également l'Esprit de Dieu qui est sur ces hommes, comme il est encore aujourd'hui sur eh bien, l'Église. Et puis enfin, trois jours. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a plusieurs... Vous savez, lorsqu'on traduit, c'est un peu compliqué. Au verset 30, on nous parle du quatrième jour dans vos traductions. En réalité, d'abord, si vous faites attention à la temporalité, c'est trois jours. Et puis, il y a d'autres manuscrits où on dit trois jours. Donc, je pense que la bonne traduction et la bonne leçon, même au départ en grec, c'est trois jours. Mais ces trois jours, pour tous les chrétiens, ça évoque évidemment la résurrection. Cela veut dire aussi qu'à partir de ce récit, quelque chose de complètement neuf va surgir. La résurrection, c'est certes la résurrection pour nous, mais c'est aussi une manière pour l'Église naissante de ressusciter, c'est-à-dire de se mettre debout, en route, dans le monde. Et c'est ce qui va se passer après, puisque les apôtres vont se disperser aux quatre coins du monde. Une résurrection, ou tout du moins une vraie conversion, un vrai chamboulement total, à la fois dans l'Église, mais aussi dans la vie de chacun, dans la vie de Corneille, puisqu'il va appeler Pierre, Pierre va arriver, l'Esprit va arriver sur eux et il va être baptisé. Mais est-ce vraiment Corneille qui est converti? Car si l'on voit, si l'on entend combien ce qui se passe dans ce récit, il me semble que Corneille résiste peu. Au contraire, il est assez enthousiaste. L'ange se présente, allez, il accepte la vision, il obéit, il envoie les trois messagers auprès de Pierre. Mais s'il y en a un qui résiste, c'est Pierre. Il a toujours résisté d'ailleurs, Pierre. Ou c'est pour ça que je l'aime bien, parce que Pierre, moi j'ai l'impression d'être plutôt Pierre que Corneille. Parce que si j'avais des visions comme ça, je ne suis pas sûre que j'entendrais bien exactement ce qu'il m'est dit. Et d'ailleurs, est-ce que dans nos vies, nous entendons toujours ce que Dieu nous dit? Est-ce que nous entendons toujours son appel à changer et à essayer de changer notre regard sur le monde et sur les autres? C'est exactement ce qui est demandé à Pierre. Mais un changement profond, il a tellement cette habitude de ne pas manger ces viandes impures que comment peut-il imaginer que, alors que c'est dans la loi, Dieu lui-même vient lui annoncer complètement le contraire? Pierre résiste, et puis Pierre, petit à petit, il comprend, et il entend, et il y va, Oh, je ne suis pas sûre qu'il ait le cœur très joyeux lorsqu'il y va. Mais il y va. Et il lui faudra de nouveau cette rencontre pour pouvoir vraiment comprendre. Parce que lorsqu'il est face à Corneille, là, eh bien, tout s'efface, tout disparaît. Face à Corneille, dans la rencontre, dans le face-à-face entre deux hommes, eh bien, là est possible la vraie fraternité. Je pense que souvent, aussi, nous pourrions faire plus de rencontres dans nos églises, mais aussi dans le monde, parce que nous avons peur de l'autre, ou nous pensons eh bien, que nous ne peut rien nous apporter, peu importe les préjugés, les pressentis que nous pouvons avoir par rapport aux autres. Mais souvent, je l'ai remarqué, lorsqu'on fait rencontrer deux personnes que, eh bien, parfois, tout oppose, eh bien, oh, pas sur des plateaux de télévision, hein, c'est plutôt à éviter, mais dans la vérité, eh bien, lorsqu'on fait rencontrer deux personnes, chacun change. Je l'ai vu ici plusieurs fois, dans l'église, ne serait-ce que, moi ça m'arrive, je ne suis pas très à l'aise par exemple avec les personnes sans domicile fixe ou dans la grande précarité. Eh bien, lorsque je m'assois à table, et là aussi il s'agit de table, lorsque je m'assois à table au moment des déjeuners du CASP ou bien des repas organisés par Hiver Solidaire, eh bien, je rencontre une personne qui est comme moi, une personne dans un face-à-face et j'oublie. Oh, j'avoue, après la vie reprend et certaines choses reviennent, ça ne disparaît pas. Mais cette rencontre dans le face-à-face est à mon avis importante. Et on peut l'entendre lorsque Pierre nous dit que Dieu ne regarde pas à l'apparence. C'est ce verset que je vous ai lu qui, à mon avis, n'est pas très bien traduit lorsqu'on nous dit que eh bien, au verset 34, si je le retrouve, oui, je vais le retrouver. Dieu n'est pas partial, cela signifie Dieu ne regarde pas aux apparences. Mais en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice est agréé par lui. En effet, Dieu ne regarde pas aux apparences. Dieu regarde au fond. Il y a une phrase du Petit Prince qui nous dit « On ne voit bien qu'avec le cœur ». Peut-être que ça rejoint un peu ce qui est dit là. Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il dit « Nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi ». Et c'est vrai que lorsque nous marchons selon la foi, eh bien notre regard change. Et là, dans ce récit, il s'agit bien de faire changer le regard d'une vraie conversion. Et cette conversion, c'est celle de Pierre. Ainsi, on comprend que dans ce récit, il y a des choses essentielles, indispensables, que si ça ne s'était pas passé, eh bien, il n'y aurait pas d'église. Que si il n'y avait pas eu cette rencontre bien préparée par Dieu et aussi par tous ceux, par tous les acteurs, s'il n'y avait pas eu cette rencontre improbable, cette rencontre insensée entre Pierre et Corneille, eh bien, jamais il n'y aurait eu l'église. Parce que qu'est-ce que c'est que l'église ? L'église, c'est un lieu où tous doivent être accueillis. Oh, je parle de l'église, je ne parle pas spécialement du monde entier, parce qu'ici, il est question de l'église. Il n'est pas question d'autre chose. Ça peut nous servir pour notre attitude dans le monde. Mais en tout cas, déjà, si nous savons accueillir tout le monde dans l'église, avec les différences, peu importe l'apparence, regardons pas selon les apparences, et dans notre monde, c'est important, parce que s'il y a bien un monde où tout se joue selon les apparences, eh bien c'est notre époque. Peut-être que ça l'était à d'autres, mais en tout cas, dans ce monde où nous sommes gorgés d'images, l'apparence est essentielle. Eh bien non, ne regardons pas selon les apparences, accueillons toutes celles et tous ceux qui frappent à notre porte. Peut-être qu'ils vont repartir, mais peu importe, sachons être un lieu d'ouverture, un lieu d'accueil, un vrai lieu où eh bien, nous pouvons témoigner du message de l'Évangile qui est celui-là. Certes, il y a bien une frontière, puisqu'on nous dit que Dieu aime ceux qui mettent en pratique sa parole. Je vais y revenir. mais la frontière n'est plus une frontière d'appartenance à un peuple, d'appartenance même à une ancienne religion. La frontière, elle se situe entre ce que nous faisons, ce que nous disons, ce dont nous témoignons et les autres qui, en réalité, n'entendent pas forcément. C'est pas très protestant ce que je suis en train de dire là, parce qu'on est un peu dans la théologie des œuvres. Bon, moi, d'abord, moi je trouve que la théologie des œuvres, elle a quelques biens quand même. Mais nous sommes avant tout sous le signe de la grâce, car tout cela n'est possible que parce qu'il y a Dieu et qu'il y a son esprit qui est omniprésent dans cet épisode. Parce que j'ai oublié de noter l'importance de l'action de Dieu dans notre épisode, dans cette rencontre. Cette rencontre n'est possible que parce que Dieu est à l'œuvre du début à la fin. Donc ainsi, il faut l'intervention de Dieu auprès de Corneille. Il faut l'intervention de Dieu très insistante, mais Dieu connaît Pierre et il nous connaît. Il sait que ce n'est pas en une seule fois qu'il peut nous parler, mais qu'il faut qu'il insiste pour que nos préjugés tombent. L'intervention de Dieu auprès de Pierre, et ensuite l'Esprit qui descend sur tout le monde, et c'est pour cela que Pierre enfin accepte de baptiser. Ainsi, cette importance de Dieu dans nos existences. En effet, nous pouvons accueillir les autres, nous essayer de changer notre regard si nous nous appuyons, et seulement si nous nous appuyons sur Dieu. Alors oui, ce récit, c'est l'acte de naissance de l'Église universelle. Mais ce récit nous invite, nous aussi, à nous poser des questions sur notre Église aujourd'hui. Qu'est-ce qui est pur et qu'est-ce qui est impur? Alors c'est vrai que cette histoire de viande pure et impure, elle nous est un peu étrangère aujourd'hui. Oh, surtout ici, aucun interdit. On mange de tout, on ne fait pas carême, tout est possible. Non, en réalité, tout n'est pas possible. Nous avons d'autres frontières que nous avons changées. Il y a des choses pures et des choses impures, en tout cas des choses que nous pouvons accepter, des choses que nous ne pouvons pas accepter. C'est plutôt, à mon avis, dans cette catégorie qu'il nous faut réfléchir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut accepter dans notre Église? Qu'est-ce qu'on ne peut pas accepter? Jusqu'où nous pouvons aller? Oh, on le voit bien particulièrement dans les débats sociétaux qui ont lieu dans l'Église. Certains trouvent que, là, il y a une limite. Moi, je me rappelle, il y a un an, c'était le débat sur la bénédiction des couples de même sexe. Ce n'est pas facile dans nos églises. Et faire bouger les frontières, le faut-il systématiquement? D'ailleurs, je pose la question. C'est quelque chose qui nous interpelle et qui fait que, nous avons un débat pour savoir qui nous pouvons accepter, jusqu'où nous pouvons accepter. Oh, ça a été la même chose il y a 50 ans. Pour l'introduction des femmes dans le ministère féminin, ça a été très chaud aussi. Et puis cette année, il y a eu un débat au dernier synode sur la nouvelle traduction du Notre Père. Comment doit-on traduire le Notre Père? Vous savez qu'il y a l'Église catholique, qui d'ailleurs avait consulté la Fédération protestante, au moment où elle a mis en branle cette nouvelle réflexion, va dire à partir du mois de décembre, enfin du premier dimanche de l'Avent, cette nouvelle phrase ne dira plus « ne nous soumet pas à la tentation, mais ne nous fait pas entrer en tentation ». On a eu un grand débat. Est-ce qu'on fait comme les catholiques, ou est-ce que, pourquoi pas, on pourrait revoir toute la traduction du Notre Père, qui est une très mauvaise traduction? Ça, tout le monde le sait, tout le monde l'entend. Qu'est-ce qui est le plus important? Bien traduire? Mais dans ces cas-là, nous ne serions pas d'accord, parce que si on fait une espèce de rencontre, chacun nous aurions une traduction différente. Ou qu'est-ce qui est le plus important? Ou être ensemble et faire communauté pour montrer à la fois que malgré certaines divisions, malgré certaines différences, même y compris théologiques, nous pouvons dire ensemble un même texte qui est cette prière si importante pour tous les chrétiens, que nous pouvons d'ailleurs dire notre Père qui nous réunit tous ensemble. Peut-être que notre Père suffirait, c'est magnifique de dire notre Père. Je ne sais pas si vous y pensez à chaque fois, mais cela nous met tellement dans cette communion de l'Église universelle. Qu'est-ce qui est le plus important ? La bonne traduction, la bonne interprétation, ou bien le fait d'être ensemble ? Cela nous pose même la question de la vérité. Qu'est-ce qui est vrai ? C'est ce qui s'est réellement passé, ou ce dont nous pouvons témoigner tous ensemble ? Et là aussi, c'est important, parce que nous le savons, c'est par des visions et par l'interprétation qu'en fait celui qui a cette vision, que la parole nous parvient. Alors nous aussi, aujourd'hui, est-ce que nous saurons accueillir ce royaume, ce royaume de Dieu, et est-ce que nous saurons aussi le construire à travers l'Église ? Parce que tout à l'heure, je disais que tout se passait dans l'Église. Oui, c'est vrai, mais l'Église, elle a un rôle aussi. Et si nous ne sommes même pas capables, dans l'Église, d'accueillir le pauvre, le petit, l'étranger. Et quand je dis ça, ça incorpore énormément de monde et il y a tellement de gens que nous laissons à la porte de nos églises. Si nous ne sommes même pas capables de témoigner de notre capacité à accueillir, à accompagner, à aimer, à aider et aussi à recevoir de ceux qui arrivent. Parce que Pierre a certainement plus reçu de Corneille pratiquement que Corneille de Pierre. À recevoir d'eux, comment nous pourrions avoir une parole crédible dans notre monde ? Parce que le message de l'Évangile, il ne devrait pas rester dans nos murs, mais au contraire, nous devrions le faire rayonner bien au-delà de nos murs. Alors, ne l'oublions pas dans tout ce récit, que la rencontre avec l'autre, c'est également la rencontre avec le tout autre, la rencontre avec Dieu. Ce Dieu toujours inattendu, qui se présente à nous de manière étonnante, qui nous bouscule, qui nous ébranle, ce Dieu toujours différent de ce que l'on pourrait attendre, Dieu qui nous interdit depuis la nuit des temps de l'enfermer dans une image ou même dans des images et de nous enfermer nous aussi dans nos certitudes, dans nos carcans, Dieu qui nous appelle à nous lever, à aller à la rencontre, au contact de ce que nous aurions pu croire impur. Et ainsi, nous pourrions, en nous levant, en ouvrant les bras, en accueillant et en recevant, construire ce royaume de Dieu auquel Dieu aspire. Amen.